Est-ce qu'il y a une église qui est heureuse d'être ici ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble? Yes! On va prendre ce chant qui nous dit « Dieu est parmi nous ». Et ça nous dit, ce refrain, ça nous fait « Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous ». On essaye ensemble? Oh! Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Encore une fois. Et oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. On va chanter, assemblons-nous pour le louer.
Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué aux voix. Jésus seul pouvait triompher à la croix.
Ensemble, oh, célébrons ses louanges, c'est parti.
Hey. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé, par son esprit, il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas.
Est-ce que vous êtes prêts? On y va! 2, 3, et...
Oh! Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous.
Oh!
Oh! Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, Dieu est parmi nous. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous.
Tous les peuples et les nations de chaque génération proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons!
Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, le roi des rois. Sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, parmi nous.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu? Sois le bienvenu, ô Éternel. Reçois l'adoration. On veut proclamer le nom de Jésus maintenant. Ce nom qui libère, ce nom qui sauve. On le proclame sur nos cœurs, on le proclame sur chaque pensée. Car je sais que la paix et dans ta présence. Il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Alors on va le chanter ensemble. Je veux.
Oui, je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus. Alléluia. Oui, je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Car je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Alors on proclame
ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie.
Voici ce qu'il fait.
Tu brises les chaînes, tu perces la nuit et consumes tout.
Alors on proclame ensemble.
Oui, je veux proclamer le nom de Jésus.
Fais-le.
Oui, sur nos peurs et sur notre anxiété.
Alléluia.
Sur les cœurs affligés par la dépression. Prions Jésus.
Alléluia. Ton nom.
Ton nom est puissant. Et ton nom guérit. La nuit consume tout.
Oh, ton nom.
Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie.
On proclame, tu brises.
Tu brises les chaînes.
Alléluia.
Tu perces la nuit consume.
Déclare ensemble.
Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, et Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déclarer le nom de Jésus sur sa famille ce matin? On y va ensemble.
Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues,
yes.
Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis.
Alléluia.
Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Proclamons son saint nom, Jésus.
Voici ce que ton nom fait, Seigneur.
Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie.
Alléluia.
Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume.
Encore une fois, ton nom.
Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout.
Seigneur, nous venons proclamer ton nom ce matin. Seigneur, nous venons élever le nom de Jésus. Nous voulons proclamer le nom de Jésus, Seigneur. Là où il y a des ténèbres, Seigneur, ton Église vient proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est ça qui va faire la différence. Nous proclamons le nom de Jésus sur nos familles. Nous proclamons le nom de Jésus sur cette Église. Nous proclamons le nom de Jésus dans nos rues. Nous proclamons le nom de Jésus sur Strasbourg. Nous proclamons le nom de Jésus sur tout ce qui nous empêcherait de te louer maintenant. Seigneur Jésus, ton Église t'adore parce que ton Église sait que tu agis. Seigneur, nous nous confions en toi ce matin. Parce que ton nom est puissant. Parce que ton nom délivre. Parce que ton nom guérit. Seigneur, et ce matin, nous venons te louer. Et nous voulons proclamer, prendre autorité. Parce que c'est ton autorité, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui marche devant nous. Seigneur, nous proclamons le nom de Jésus. On va reprendre, déclarons-le sur les mots.
Déclarons-le sur les mots. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis.
Allez l'église.
Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom, Jésus.
Nul autre nom, nul autre nom. On y va.
Déclarons-le sur les mondes. Jésus dans nos rues.
Jésus
dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom, Jésus.
Je contemple ta sainteté. Et quand je contemple ta beauté. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je
Ce temps d'adoration, ce chant match parfaitement avec une de nos sœurs qui a combattu le bon combat, qui a accompli sa course sur terre, une vie d'adoration à Dieu avec ses hauts et ses bas. Notre sœur Raymonde Wengart est décédée et nous pensons ce matin à la famille endeuillée, à vous qui les connaissez. Nous savons qu'elle était entourée et de sa famille, entourée aussi de personnes de l'Église qui l'ont aimé. Je voudrais remercier toutes les personnes qui l'ont visité. Je pense à Michel et d'autres, Michel Schneider et d'autres personnes. Et la cérémonie d'adieu aura lieu ce vendredi 8 novembre à 14h au funérarium de la Robertso. Et c'est pourquoi nous partageons cette information ici aussi à nos frères et sœurs aînés qui ont l'habitude de se rencontrer les premiers vendredis du mois. Nous reportons cette rencontre au 15 novembre de manière à ce qu'on puisse être mobilisés ensemble pour entourer la famille et rendre un dernier honneur à notre sœur, entourer la famille, Marc, Béatrice, les frères et sœurs, les enfants, les petits-enfants. Et cela nous rappelle à nous aujourd'hui que c'est la raison pour laquelle on vit, pour adorer Jésus. Et peut-être on pourrait nous-mêmes faire encore cette prière à Dieu, nous qui marchons avec le Christ, vous qui découvrez peut-être ce matin le Christ, nous voulons faire cette confession, cette prière. C'est la raison pour laquelle je vis. On pourrait peut-être juste le prendre en prière ensemble et inclure aussi la famille Wengart dans nos prières et dans nos cœurs.
C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu.
C'est la raison, Seigneur, jusqu'à la fin de notre course. Une dernière fois en prière, c'est la raison.
C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu.
Seigneur, nous prions pour la famille endeuillée ce matin. Nous prions, nous qui sommes toute l'Église rassemblée pour te célébrer, nous prions ensemble que ta consolation soit à l'œuvre dans la vie de chaque personne qui est touchée, impactée par cette nouvelle. Te demandons d'accompagner toutes les personnes qui vont faire en sorte que la cérémonie d'adieu se passe bien. Et nous te prions aussi là pour un rendez-vous divin entre le Dieu consolateur et les personnes touchés par le deuil. On prie pour tout cela dans le nom de Jésus, afin que nous puissions être cette église aussi en mission de consolation pour les personnes touchées. On te remercie d'avance pour ton soutien, ta force, ta sagesse, ton espérance. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Très heureux de vous accueillir ici à l'EPI ce matin. Vous aussi qui êtes en ligne, l'Église connectée, très heureux de pouvoir être ensemble ce matin pour vivre des temps d'encouragement, des temps spirituellement bons pour notre âme, pour nos relations, de manière à ce que quand on est dans la vraie vie, on puisse être une source de bénédiction pour les personnes qui nous entourent. Deux temps forts nous attendent ici, dans nos locaux, cette rue des Frères Hébert, un temps de jeûne et de prière qui aura lieu dès demain à partir de 19h30 sur la thématique des guérisons. Nous croyons que Dieu est riche en bonté et en miséricorde et qu'il n'y a pas une seule voie pour lui pour toucher, pour guérir, pour sauver. Et on veut ensemble jeûner et prier, prier pour les personnes qui en auraient besoin. Alors rassemblons-nous pour ce temps, c'est du lundi 4 novembre au mercredi 6 novembre, toutes les soirs à 19h30, louanges, messages, prière pour les malades, les personnes en besoin, vraiment des temps de rafraîchissement, nous le croyons, amen. Amen, on croit vraiment que c'est des temps de jeûne et prière à l'EPI qui font du bien à l'âme et qui bénissent. Un autre temps fort que nous accueillons ici aussi dans nos locaux, c'est une rencontre parents-enfants sur le thème « Comment éduquer, comment accompagner nos enfants dans une société hyper connectée ?» Ça aura lieu le dimanche 10 novembre en salle cafétéria. Vous avez toutes les informations disponibles sur le flyer. Tout de suite, quand vous sortez de cette grande salle, à votre droite, vous avez un espace vide église. Là, vous aurez ce petit flyer. L'idée, c'est d'apporter un ancrage, un éclairage biblique sur ces défis de l'hyperconnexion, de pouvoir favoriser aussi les échanges entre les familles de l'EPI, de pouvoir aussi encourager chacun à vivre une vie de famille épanouie et le plus équilibrée possible. Donc, c'est un temps fort pour vous, famille. Donc, prenez connaissance de tout cela à l'espace vie d'église à la fin de cette célébration. Je suis aussi très, très heureux de pouvoir vous retrouver pour parler du projet immobilier. Pourquoi ? Parce que certains d'entre vous sont impliqués depuis tant d'années déjà, impliqués dans le temps qu'ils donnent, dans le conseil, dans la prière, dans la contribution financière. Certains aussi prennent des nouvelles, viennent voir le conseil d'église pour poser des questions, pour se tenir informés. Cela démontre un intérêt. Un intérêt, nous sommes plusieurs à être engagés, concernés par ce projet. Alors déjà, un grand merci pour cela. Ce projet s'appelle « On reste ». Et c'est avant tout une vision qui est accompagnée d'un projet. En juin dernier, nous nous sommes rassemblés à un quorum historique, membres présents et représentés ici, et à 97% d'entre nous, nous avons dit un grand oui, nous restons cette rue des Frères Hébert dans ce bâtiment qui est là. On reste, c'est un projet qui va bien au-delà de simples travaux de construction. Il s'agit de bâtir un lieu de vie pour notre église locale où nos aînés, nos enfants, nos adolescents, nos jeunes, nos parents, nos adultes trouvent un refuge, trouvent des célébrations qui les équipent, qui les ressourcent spirituellement, trouvent de la prière, trouvent de l'écoute. Un endroit aussi où la formation des disciples est au cœur de toutes nos activités. Un lieu où des projets prennent vie pour Dieu, pour faire connaître Dieu et connaître Dieu soi-même, connaître son amour, connaître l'évangile. C'est aussi un lieu d'unité que nous bâtissons ensemble, un lieu de communion pour les projets en lien avec l'entente des églises protestantes évangéliques de Strasbourg, mais aussi avec le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, notamment au niveau du 67. Mais la vision, et on vous l'a présentée lors de cette Assemblée Générale Extraordinaire, elle va encore un peu plus loin. Nous voulons offrir au quartier, à la ville, à ceux qui ne fréquentent pas l'Église, qui ne connaissent pas Jésus, un espace de découverte et un espace de contact. Un lieu de vie en dehors du travail, un lieu de vie en dehors de la maison, où chacun peut se sentir accueilli, béni, en fonction du projet qui le concerne. C'est tout cela que nous avons voté au mois de juin dernier, en fait, pour continuer cette aventure de foi d'être une Église locale qui aime Jésus et qui rayonne et qui brille de l'Évangile pour le bien de la société autour de nous. C'est pour tout cela. Pour ceux qui viennent peut-être d'arriver cette année pour le travail, pour les études, ceux qui voudraient se remettre un petit peu à jour par rapport à ce projet, le projet ORES, c'est aussi 10 années de travaux, 10 années de rendez-vous, de prospection, de réflexion, de consultation de l'Église, des responsables, de professionnels. Et ça nous a conduit à décider de rester dans nos locaux. En juin, le fruit de ce travail nous a conduit à choisir de réhabiliter le bâtiment et de mettre en sécurité le bâtiment. Pourquoi ? Parce que avec 10 ans d'expérience de recherche, c'est le moins cher. Nous sommes propriétaires de 4500 m² à Strasbourg Eurométropole. Ce projet correspond le mieux à la vision et aux missions de l'EPI depuis tellement d'années maintenant. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails sur l'historique de nos travaux, sur des précisions, on vous renvoie au livret qui est disponible. Il y a encore quelques formats papier. Sinon, vous avez toutes les informations en ligne. Et le président des Assemblées de France, Yann Antoine, a fait le travail de regarder en ligne un peu notre vie d'église. Donc, il a consulté le livret aussi en ligne. Donc, vous aurez toutes les informations, je vous le rappelle, pour pouvoir avoir plus de détails. Au niveau du projet architectural, en quoi ça consiste? Ça consiste à munir l'Église, à munir les chrétiens d'un bâtiment totalement renouvelé avec des améliorations totalement concrètes. Un confort d'utilisation, ravalement, isolation, mise aux normes pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, un espace plus fonctionnel et on a pensé aux cyclistes strasbourgeois avec un parking à vélo de plusieurs dizaines de places. Ne nous remerciez pas. Voilà où on en était quand on était en juin. Aujourd'hui, on veut vous présenter les avancées qu'on veut et qu'on peut communiquer au nom du Conseil d'Église, du Conseil d'administration notamment. Pour l'année 2024-2025, comme annoncé en AGE, nous sommes dans une phase qu'on appelait une phase de finalisation de l'élaboration du projet. L'idée, c'est de le préciser et de préciser plusieurs choses. Il y a des premières études qui ont donc été réalisées, géomètres, études au niveau de l'amiante. Alors, petite blague, rassurez-vous, tout va bien en dessous de vos chaises, là. Hein, vous êtes en paix là-dessus, vous inquiétez pas. Prise de rendez-vous pour des subventions qui ont été prises avec les personnes compétentes au niveau de la ville de Strasbourg, c'est posé, on avance. Mais aussi avec des professionnels, notamment pour ceux qui connaissent dans le milieu du bâtiment, des fameux certificats d'économie d'énergie. Donc, on est en train de travailler sur ces dossiers-là. En parallèle, on est aussi en train de travailler sur différents types de levées de fonds et on vous annoncera chaque initiative au moment opportun. Je vous parlerai dans un instant de la manière de rester au contact du projet, de rester informé sur le projet. Au niveau de l'évolution des dons, nous tenons d'abord à exprimer, au-delà du projet bâtiment, à exprimer toute notre gratitude pour l'augmentation des dons par rapport aux offrandes pour la vie de l'Église, pour le fonctionnement de l'Église. Par rapport à 2023, à la même période, nous sommes en augmentation de 7% pour la vie et le fonctionnement de l'Église. Et je voudrais juste que nous puissions remercier les donateurs. Est-ce qu'on peut les applaudir? Ils se reconnaîtront. Mais un grand merci pour les ministères, les services qui peuvent fonctionner. Tous les disciples de Jésus peuvent bénéficier de soutien, d'apport aussi, de matériel, de ressources par ce biais-là. Maintenant, je veux me concentrer sur les dons dirigés pour le projet immobilier. Qu'est-ce qu'on entend par dons dirigés pour le projet immobilier? Ce sont des dons supplémentaires que vous faites en plus des offrandes que vous apportez pour la vie de l'Église. Concernant ces dons, on a constaté pour les dons dirigés une augmentation de 2,9 de dons dirigés. Donc, on est passé à 6 700 € par mois. Donc une belle augmentation depuis l'AGE, donc il y a un écho, il y a une entente qui a été là et il y a une évolution qui se met en place. Il y a aussi eu des dons ponctuels à hauteur de 110 000 €, des personnes qui ponctuellement ont donné pour le projet en 2024, pour le projet dédié au niveau immobilier. Nous avons eu aussi, et ça arrive parfois, des legs qui sont survenus dans cette année, dans ce timing dans lequel nous sommes. Le leg, ce sont des personnes qui croient dans l'importance d'avoir une église locale comme l'EPI, parmi d'autres églises locales, et qui investissent et qui veulent offrir, faire un don d'une partie de leurs ressources pour l'église. Et je voudrais juste être reconnaissant par rapport à ces personnes. Je voudrais aussi remercier les familles concernées par ces legs parce qu'elles font vraiment une différence et on voulait quand même vous en parler, même si c'est de l'exceptionnel. Il y a des personnes qui croient dans le projet de l'EPI, qui croient dans l'importance d'une église locale comme celle de l'EPI. Alors un grand merci. Pourquoi donner maintenant? Pourquoi donner maintenant? En donnant dès aujourd'hui et jusqu'à la finalisation du projet, vous contribuez à faciliter les décisions du conseil d'administration et plus globalement du conseil d'église. Et ça permet d'accélérer aussi l'avancement du projet. Et un exemple concret, c'est l'évolution, par exemple, de notre épargne pour travailler le plan de financement qui sera lui aussi à finaliser. L'évolution de notre épargne. Nous avions clôturé l'exercice 2023 avec 1,4 million d'euros en épargne. Depuis plusieurs années maintenant, l'église fait cet effort-là. Et nous avons constaté avec l'AGE et jusqu'à maintenant une augmentation de pratiquement 320 000 euros qu'on a pu épargner pour atteindre aujourd'hui une épargne de 1,7 million d'euros grâce aux dons. Il y a aussi des intérêts générés, tout ça, des placements. Mais En tout cas, il y a une augmentation. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, en moyenne, chaque année, l'EPI met de côté en épargne environ 160 000 euros par an. Nous en sommes aujourd'hui à 320 000 euros et c'est vraiment une grâce et on voudrait vous remercier pour ça. Il y a une évolution qui est là, c'est une belle progression et nous en sommes très reconnaissants parce que cet engagement, dès les premiers mois de la phase finale, font vraiment une différence. Alors, comment rejoindre les donateurs si vous souhaitez contribuer à ce projet de lieu de vie, ce projet spirituel qui bénit la ville, qui bénit les chrétiens, qui bénit les croyants? Vous avez deux manières de pouvoir donner: don ponctuel ou don régulier. Sur deux plateformes, très simplement, sur notre site internet, il y a un onglet « Nous soutenir ». Vous voyez le projet « On reste ». Vous allez là, vous suivez, vous vous laissez conduire et vous pouvez faire un don ponctuel de 100, 300, 400, 1000, 10 000 euros ou autre, ou un don régulier, à vous de voir. Vous pouvez aussi passer par des RIB et notamment, on a mis à disposition ce RIB, donc avec cette charte graphique-là, c'est écrit « Projet immobilier, on reste ». Par ce RIB, vous pouvez faire des virements, vous avez toutes les informations. Il y a aussi des précisions concernant les dons. Vous donnez à une église association cultuelle et vous avez droit à une déduction fiscale. Donc tout est expliqué pour vous conduire là. Vous pouvez aussi faire vos dons par le biais du RIB. Je finis juste cette première annonce pour vous parler comment on va rester connecté, comment on peut rester à jour, comment on peut rester informé en tant qu'église de l'EPI sur le projet immobilier. Une annonce dédiée sur le projet immobilier sera faite tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, nous reviendrons vers vous de différentes manières. Aujourd'hui, c'est moi qui lance cette dynamique-là. Mais voilà, une annonce dédiée tous les 2 mois pour suivre le projet. Nous allons aussi avoir des réunions d'étape pour approfondir certaines questions que vous auriez, répondre à des questions que vous auriez, peut-être être à votre écoute sur des détails, sur des choses que vous voudriez partager avec nous. Et la prochaine réunion d'étape que nous aurons, elle aura lieu le 26 novembre. Ce sera en Zoom. Et à la fin de cette célébration, il y a l'équipe accueil qui se tient après. Elle aura des feuilles, on ne le distribuera pas à tout le monde. Si vous êtes intéressé par cette réunion d'étape, vous voulez y aller, vous pouvez tendre la main et vous aurez ce petit billet de connexion qui vous aidera à vous connecter à nous, donc le 26 novembre à 20h. Il y aura des mails aussi qui vont être envoyés. Et enfin, vous avez le stand Espace Vie d'Église. Là aussi, vous pouvez demander, récupérer le livret. Vous pouvez poser vos questions, prendre rendez-vous peut-être avec le conseil d'administration si vous avez besoin d'approfondissement. Plusieurs canaux sont là à votre disposition. Alors, je sais que c'est une grande info, c'est une grande annonce. Alors, je vous remercie pour votre attention et j'aimerais simplement nous inviter à prier pour le projet qui est là, qui est lancé, qui est en évolution. Dieu connaît nos besoins, vous connaissez les besoins, mais nous croyons que Dieu est celui qui nous accompagne, qui sait pourvoir, qui sait nous accompagner, nous conseiller. Alors, merci de prier pour toute l'équipe projet. On a besoin de la sagesse de Dieu, on a besoin de bien s'entourer, des bons conseils et on reviendra vers vous et on échangera ensemble pour que le maximum de personnes puissent entendre l'évangile au travers d'une église en bonne santé, une église qui est bien équipée. Amen. Amen. On prie ensemble et on va prendre un chant qui vient sceller cette proclamation d'être une église. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité tout au long de ces années. Je te remercie pour toutes les personnes qui sont impliquées, des professionnels, des membres de l'église, en bénévolat, de manière rémunérée, toutes les personnes qui sont en train de travailler, toutes les personnes qui prient, toutes les personnes qui ont envie de voir une église continuer de rayonner, de briller, d'être une lumière qui éclaire de l'amour, de l'évangile de Jésus. On te prie, Seigneur, toi le Dieu de la provision, que tu continues ton œuvre et que tu puisses pourvoir à tous nos besoins. On veut faire les choses sérieusement, correctement, dans ton timing. Accompagne-nous, Seigneur. On veut être ton église, on veut être une belle église. Une église qui t'honore, une église qui fait du bien autour d'elle. Alors à toi toute la gloire pour ton accompagnement, parce que c'est toi le grand berger de l'église de l'EPI. Et ça, c'est super rassurant. Alors merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. On peut peut-être se lever ensemble pour cette déclaration d'être une église.
issu. Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux.
Avec les anges et nous ici présents, passerons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit.
Nous n'avons
qu'un seul Père, nous n'avons qu'un sauveur,
qui pour nous est tout fait,
nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes unis.
C'est d'autant plus important quand on fait partie, nous les pieds, d'une grande famille d'églises qui s'appelle les Assemblées de Dieu, avec toute la diversité qui est la nôtre dans cette famille d'églises. Et c'est un bon temps de pouvoir le témoigner, le célébrer ensemble, que on a des nuances, des différences, mais que Jésus est le seul maître de l'Église avec un grand E majuscule. Amen. Amen. On est très heureux ce matin de pouvoir accueillir Yann Antoine. Yann Antoine est époux, papa, pasteur depuis plusieurs années et il a pris récemment, il y a 6 mois, une fonction assez particulière pour notre famille d'Église, celle de la présidence du mouvement des Assemblées de Dieu de France. Il est ici pour le week-end pour nous rencontrer, rencontrer aussi les pasteurs de la région Grand Est, dont nous faisons partie de cette belle région-là. Et on est très heureux d'accueillir Yann qui va nous annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Alors, est-ce qu'on peut lui souhaiter la bienvenue au milieu de nous ce matin? Que le Seigneur le bénisse.
Voilà, merci beaucoup Mathieu, merci à toute l'équipe pastorale pour cette belle invitation. J'ai beaucoup de joie à être avec vous ce matin, de vous voir là tous nombreux dans cette église pour célébrer le nom de Jésus. Une seule église, c'est magnifique. J'ai un privilège dans le cadre de mes responsabilités au niveau national, c'est de voyager un peu dans pas mal d'églises, dans pas mal d'endroits en France et à l'étranger. Et je peux vous assurer que c'est réjouissant de voir l'Église de Jésus dans le monde entier qui célèbre ce nom extraordinaire, quelle que soit la couleur de la peau, la langue, la culture. Dieu est magnifique dans son Église et l'Église dans toute sa diversité manifeste cette gloire de Jésus comme on vient de le chanter. Donc vous êtes très beaux les uns et les autres en Alsace apparemment. Dans cette belle diversité, j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de 60 nationalités ici dans cette église, peut-être encore plus dans la ville de Strasbourg, donc très heureux de vous rencontrer. J'ai un point commun avec vous, étant à Saint-Germain-en-Laye, c'est aussi une ville qui a une certaine dimension internationale. Je suis dans l'ouest de Paris, alors je sais que en dehors de Paris, on n'aime pas trop les Parisiens, mais comme vous êtes chrétien, je sais que vous allez quand même m'accepter un peu ce matin, ça ira ? Voilà, je vis non loin du centre d'entraînement du PSG. Voilà, ça c'est là où je vis. Mais ne m'en voulez pas, c'est là où Dieu m'a appelé à être. Mais justement, moi je suis né à Paris en fait, même si j'ai vécu dans d'autres endroits. J'ai eu l'occasion de vivre en banlieue de la région parisienne, en Bretagne, à Chartres, en Normandie, puis de revenir à Paris il y a 17 ans. Je suis né à Paris, j'y suis revenu. Je suis marié avec une magnifique femme qui, elle, est originaire de Normandie. Elle est née à Rouen. Et notre équipe pastorale est composée de beaucoup de diversité. Il y a un des membres de l'équipe qui est né à New York City, qui est américain. Il est marié avec une femme qui est née en Turquie, qui a toute sa famille encore là-bas. Mon autre collègue, il est né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est marié avec une Roumaine qui est née à Baia Mare, en Roumanie. Notre autre collègue est né à Bukavu, au Congo RDC, et il est marié avec son épouse qui est aussi congolaise, à Kinshasa. Et puis on a un jeune ministère qui vient de se lever, qui lui est d'origine du Cameroun et qui est marié avec une haïtienne. Donc du coup, ça crée un peu de mélange, vous voyez ? Ça crée un peu de mélange. Et des fois, je me dis, est-ce qu'on aurait pu choisir l'époque ou le lieu où nous sommes nés ? Je ne sais pas, réfléchissez un instant. À quelle époque vous auriez aimé vivre et peut-être dans quel lieu ? Certains se disaient, bon, Strasbourg c'est sympa, mais peut-être ailleurs ça pourrait être plus sympa. Peut-être sur une belle île, avec un beau soleil, ça aurait été chouette. Moi j'aurais bien aimé vivre du temps de Jésus. Pouvoir le connaître, entendre ses paraboles, pas juste lire les textes, mais vraiment le connaître. D'ailleurs, petite question pour vous, qui habite dans le lieu où il est né ? Comprenez la question ? Qui habite ici dans le lieu où il est né ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Personne ? Il y en a quelques-uns, deux, trois. C'est très, très, très peu. Voilà, j'en vois un ou deux mains sur chaque travée. Ça veut dire que nous sommes tous en train d'habiter dans un lieu différent du lieu où nous sommes nés. Le message que j'aime vous donner, c'est deux phrases en particulier que vous allez entendre au cours de ce moment. La première, c'est que Dieu m'a conduit là où je suis pour que je puisse le connaître. Et la deuxième phrase, c'est que Dieu m'appelle là où je suis pour que je puisse le faire connaître. J'aimerais regarder ce matin une partie de l'histoire de l'apôtre Paul à travers un chapitre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, parce que Paul, justement, avait cette double dynamique dans son existence et lorsqu'il rencontrait les gens, il a aussi provoqué cette double dynamique. Il est originaire de Tars. Tars, ça se situe en Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie. Et puis, il a passé sa jeunesse à Jérusalem, il s'est délocalisé, c'était un passionné de Dieu, il a été instruit par les érudits de l'époque, les meilleurs théologiens, spécialistes de la loi. Et puis, il avait une caractéristique, c'est qu'il avait le droit de cité romain par sa naissance. Et du coup, ensuite, il a, dans son ministère, voyagé énormément de l'Asie mineure, puis en Europe, etc. Il est parti d'Israël, c'était un expatrié, pour partager l'amour de Jésus. Et, puisque nous sommes ici à Strasbourg, Eurométropole, si j'ai bien compris, est-ce que vous savez comment s'appellent les premiers convertis d'Europe ? Et quelle ville a été la première ville touchée par l'évangile en Europe, en tout cas dans le texte biblique ? Peut-être qu'il y a d'autres connexions qui se sont faites qu'on ignore. Est-ce que quelqu'un saurait ? Si vous ne savez pas, on va le lire ensemble. On va le découvrir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Lisons ensemble. Paul est avec son équipe missionnaire. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie, descendirent au port de Troas, et là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville et nous allons arrêter notre lecture, on la continuera ensuite. Et la lumière fut. Paul nous montre le chemin d'une vie qui rayonne par l'évangile et la manière dont même cet évangile est venu entrer en Europe. Et la première ville européenne à être touchée par l'évangile, c'est Philippe. C'était un piège, hein ? Macédoine, c'était la région. C'est la région, c'est la Grèce aujourd'hui, et Philippe était le lieu où l'Évangile a rayonné. L'Évangile rayonne. Et dans le texte que nous allons lire, dans tout ce chapitre, j'aimerais souligner trois choses avec vous ce matin. La première, c'est que Dieu nous appelle à rayonner là où les gens sont. La deuxième, c'est que Dieu nous appelle à rayonner par la générosité et l'hospitalité. Et la troisième, que Dieu nous appelle à rayonner dans nos maisons. Voilà les trois axes qu'on va regarder ensemble. Une maison qui rayonne. Notre mission n'est pas de faire venir les gens dans une église, mais de leur permettre de venir à Jésus là où ils se trouvent. On partageait ça avec les leaders hier matin. Le but, ce n'est pas de faire venir les gens dans l'église en tant que tels, mais de permettre que l'évangile vienne à leur rencontre. C'est à l'église d'aller à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même faisait ça. Quand vous lisez les évangiles, vous apercevez qu'il était toujours sur les routes, toujours en train d'aller connecter avec un village, avec une famille, avec des gens. Il partageait l'évangile là où les gens se trouvaient. Et acte 16, que nous avons commencé à lire, on va poursuivre notre lecture dans quelques instants, c'est une histoire géniale, je l'aime beaucoup. Cette histoire est géniale parce que vous avez quatre personnages qu'on va regarder ensemble, qui à leur manière vont découvrir Jésus là où ils sont. La première personne, bien sûr, c'est parler de Paul quelques instants, un ancien religieux extrémiste. On verra une femme expatriée, femme d'affaires. On verra qu'il y avait aussi une femme qui était dans un temps très difficile de désespoir total, de trafic humain. Et puis un fonctionnaire bien installé dans son existence, homme de devoir et d'honneur. Regardez Paul ici, dans ce récit. Paul est un ancien religieux fanatique. Il mettait les gens à mort lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ça existe encore aujourd'hui, des personnes dans différentes religions qui sont tellement convaincues de ce en quoi ils croient qu'ils sont prêts à s'opposer aux gens et même à les mettre à mort. Mais il a été radicalement transformé par une rencontre avec Jésus et l'homme violent et plein d'arrogance qu'il était est devenu un homme plein d'amour, plein de passion et prêt à donner sa vie pour les autres. Alors qu'il avait été prêt à prendre celle des autres pour ses valeurs. Et là, on le retrouve dans Acte 16 en train de faire un étonnant chemin. Peut-être qu'on peut regarder la carte qui est associée. Vous voyez qu'il est parti d'Antioche et il a traversé donc toute la Turquie actuelle, qui s'appelait l'Asie mineure à l'époque, avec différentes régions. Vous voyez la région des Galates, la région de Bithynie, de Lycie, l'Asie mineure plus précisément vers l'ouest. Vous retrouvez la Macédoine tout en haut à gauche, donc l'entrée en Turquie. Et vous retrouvez des noms qui correspondent à notre lecture. Il est passé par Derbe, par Lystre, où il a annoncé l'évangile. Il a essayé ensuite d'aller en Asie. Vous voyez qu'il a poussé assez loin. Et là, le texte dit qu'il a été empêché par le Saint-Esprit. Alors, il est revenu en arrière. Il a essayé de traverser la Galatie. Vous voyez, c'est un petit peu au nord. Et puis là encore, l'Esprit de Jésus s'oppose à son projet. Finalement, alors qu'il vadrouille un peu de droite et de gauche, du nord au sud, d'est en ouest, il s'aperçoit que Dieu le pousse et qu'il se retrouve à Troas. Vous voyez où c'est, Troas ? C'est sur la côte, là, au nord-ouest. Et là, arrivé à Troas, toutes les portes sont fermées. Il écoute le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit l'empêche d'aller à droite, l'empêche d'aller au sud, l'empêche d'aller à gauche. Il est comme bloqué dans son ministère, bloqué dans son avancement. Il finit par arriver à la mer, au bout de l'Asie. Et ce que j'aime dans ce récit, quand on regarde la carte, c'est qu'on découvre que Dieu va l'appeler à traverser la mer pour atteindre l'Europe. Il n'avait pas prévu ça dans son chemin. Il n'avait pas prévu de dépasser ses frontières. C'est parfois au bout de nos incompréhensions et de nos échecs que Dieu nous révèle son plan plus grand qu'on imaginait. Paul pensait rester dans cette Asie mineure, mais Saint-Esprit va le pousser plus loin, dans un moment de questionnement, de doute. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne comprends plus ton chemin pour moi, je ne comprends plus ce que tu veux pour ma vie. » Il est en recherche pour comprendre sa mission. Mais Dieu l'appelle là où il se trouve, à Troas, pour qu'il puisse le faire connaître. Et c'est là qu'il a cette vision du Macédonien, cet homme européen qui l'appelle en disant « Viens et secours-nous ». Cet homme qui était en recherche de comprendre sa mission de vie va se laisser toucher par le Saint-Esprit et c'est lui qui va être ensuite amené à faire trois rencontres surprenantes. Et on va voir les trois autres personnages. La première personne qu'il rencontre quand il arrive en Europe, c'est une femme qui s'appelle Lydie. On va le lire ensemble, c'est la suite du récit, dans Acte 16. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Elle écoutait. Et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, « Puisque vous avez jugé que j'ai foi au Seigneur, venez loger chez moi. » Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Amen. Lydie, la première convertie d'Europe, c'est une femme. Une femme, il est dit ici, qui fait des affaires. La pourpre, ce n'était pas un tissu commun. C'était un tissu royal. Et donc, en lisant bien ce texte, on s'aperçoit que dans ce contexte-là, c'était une femme assez aisée. En fait, c'était une femme d'affaires qui faisait de l'import-export. Elle venait de Thyatire. Thyatire, c'était justement en Asie mineure. Thyatire, c'est la ville qui était réputée pour la pourpre. Et comme elle était habituée à travailler la pourpre, eh bien, elle était pleine de ressources, pleine d'audace. Elle a fait le chemin de dire, ben moi je vais passer de l'autre côté de la mer et là je vais aller faire mes affaires en vendant la pourpre qui est dans mon pays de Thyatire. C'est donc une femme expatriée, une femme d'affaires, une femme qui a les moyens, qui a des ressources financières assez importantes. Elle s'est installée dans cette ville, une colonie romaine à Philippe, parce qu'elle savait que là, c'était un centre névralgique d'affaires. Il y avait c'était la connexion entre différents continents, entre différentes cultures, et c'était un centre d'affaires économiques florissant. Philippe, comme colonie romaine, eh bien, jouissait d'un lieu privilégié, et peut-être que ça correspond, sur certains critères, à la ville de Strasbourg, qui est aussi aux frontières de plusieurs pays ici, un peu connectés à l'Europe de plein de manières différentes, et beaucoup de gens qui s'expatrient pour leurs affaires. Pour elle, expatriée, ça veut dire changement de culture, éloignement de sa famille, changement de langue. Elle est partie pour faire de l'argent. Et là, dans ce lieu d'expatriation, on s'aperçoit que c'est une femme qui avait déjà une certaine foi. Elle avait entendu parler de Dieu, elle était elle était non-juive, mais elle croyait quand même dans ce Dieu-là. Elle s'attendait aux promesses de Dieu. Et ce qui est magnifique dans son histoire, c'est qu'elle n'imaginait pas que Dieu l'avait conduit là pour qu'elle puisse le rencontrer. Dieu l'a conduit dans cette expatriation. Elle pensait que c'était juste pour ses affaires, mais Dieu avait fait un chemin dans sa vie pour que là, à Philippe, dans son lieu d'affaires, de travail professionnel et d'expatriation, elle rencontre le Seigneur. Et lorsqu'elle a entendu les paroles de Paul, il est dit, elle était attentive à ce qu'il disait. C'est une femme qui, dans la manière de découvrir Dieu, elle avait besoin de comprendre qui était Dieu, pourquoi l'Ancien Testament, pourquoi Jésus. Et on s'aperçoit que Dieu parle à chacun selon qui il est. Paul a su toucher le cœur de cette femme par l'Évangile d'une manière qui est différente des deux autres personnages qu'on va voir ensuite. Le Seigneur ouvrit son cœur, il est écrit. L'action du Saint-Esprit lui a permis de découvrir elle non-juive, privée des promesses, qu'en Jésus, elle avait un accès auprès de Dieu qu'elle ne pouvait jamais imaginer. Et finalement, elle était déjà préparée pour que son cœur soit complètement transformé. Et elle n'a pas hésité pour se faire baptiser parce qu'elle a compris que tout ce qu'elle attendait depuis des années dans son élan de foi, toute cette foi qui n'était pas très claire, qui n'était pas très ancrée, eh bien, en Jésus, il va y avoir une révélation pour dire « Mais c'est lui que je cherche. C'est lui qui accomplit les promesses dont on m'a parlé depuis toutes ces années. C'est lui qui remplit le vide de ma vie. C'est lui qui donne du sens à mon existence. » Et cette femme va se mettre immédiatement à manifester une générosité parce qu'elle était riche et une hospitalité parce qu'elle avait une grande maison comme des dons qu'elle a reçus de Dieu. Deuxième rencontre. Paul poursuit son chemin et à Philippe, c'est une autre femme qui s'approche de lui. Lisons-le ensemble. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. À la fin, Paul excédé se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Amen. Une femme oppressée qui devient libre. Oui, à Philippe, comme dans nos grandes villes, à Strasbourg, à Paris et dans nos mégapoles, il y a des gens qui font des affaires, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui traversent des temps de misère, de détresse, de désespoir. Elle n'était pas arrivée ici, à Philippe, pour les mêmes raisons que Lydie. Lydie, elle avait un projet, elle avait des moyens, elle avait des possibilités. Cette femme esclave, nous ne connaissons pas son nom, nous ne connaissons pas son origine, même s'il est fort probable qu'elle n'était pas originaire de Philippe. Elle était arrivée là, certainement par des marchands d'esclaves. Peut-être venait-elle d'Afrique, peut-être venait-elle d'Asie, nous ne savons pas. Elle peut venir en fait de n'importe où dans le monde, comme toutes ces personnes malheureusement qui se retrouvent dans nos villes et à qui on a manifesté l'abus et l'exploitation. Il y a trop de gens dans nos grandes villes, derrière nos façades de belles entreprises ou de villes florissantes et historiques, qui ressemblent à cette femme, qui sont dans le plus grand des désespoirs, qui n'ont pas les moyens de leur subsistance, qui ne sont pas bien nés, ils ne sont pas nés au bon endroit, ils ne sont pas nés dans la bonne famille, ils ne sont pas nés dans le bon moment de leur existence et ils se retrouvent exploités, abusés et maltraités par les autres. Aujourd'hui encore, dans notre société, au niveau mondial, il y a des trafiquants qui exploitent des femmes et des enfants partout dans le monde. Et notre pays de France n'en fait pas exception, malheureusement. Que ce soit à travers de la prostitution, que ce soit à travers d'autres manières de vivre derrière des maisons closes, derrière toutes sortes d'endroits, il y a des femmes et des hommes et des enfants qui sont exploités. Et parmi ces gens exploités, aujourd'hui, ce sont principalement les femmes et les enfants, 70% des femmes, selon les statistiques internationales, et 30% d'enfants. Des femmes qui sont exploitées sexuellement, mais aussi dans un travail forcé, dans un mariage forcé, dans les réseaux de drogue, de servitude, de prélèvement d'organes. Les Nations Unies ont écrit que certains estiment qu'il s'agit de la troisième activité illégale la plus lucrative au monde. Cette femme, il y a 2000 ans, elle n'est pas isolée par rapport à notre réalité sociale aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont souvent cherché à quitter une vie de misère dans un pays où c'était difficile, en espérant qu'à Philippe, à Strasbourg, à Paris, en France, ce soit mieux qu'ailleurs, et ils se retrouvent dans des réseaux d'esclavage. Une femme abusée et maltraitée, non seulement par les hommes, mais aussi par le diable. Cette femme, non seulement va subir l'oppression des hommes, mais elle va subir l'oppression du diable. Ce texte nous dit qu'elle était esclave d'une puissance démoniaque, esclave de toutes sortes de choses, de passions dans son existence, qui lui donnaient certains dons et certaines capacités. Et ce qui est magnifique, c'est de voir comment, avec puissance, mais simplicité, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, va la libérer totalement de ces deux esclavages en même temps. D'abord, cet esclavage spirituel de cette dynamique qui était en elle, qui l'oppressait. Et parce qu'elle a été libérée de cette influence démoniaque, eh bien, vous avez vu avec moi, c'est terrible d'ailleurs de le lire, ses maîtres l'ont abandonnée en disant « elle n'a plus de valeur maintenant, elle n'a plus de don de divination, elle n'a plus de valeur pour nous ». Et ils l'ont rejetée, mais elle s'est retrouvée libérée totalement en un seul instant par la puissance du nom de Jésus. Dieu m'appelle là où je suis pour que je puisse le connaître. Et spécialement aussi dans les lieux qui sont parfois les lieux de ma souffrance. Elle a dû se demander très longtemps qu'est-ce qu'elle faisait là. Mais ce jour-là, à Philippe, en rencontrant l'Évangile par la bouche de l'apôtre Paul, elle a découvert que le Seigneur avait un chemin pour son existence qu'elle n'avait pas encore imaginé. Troisième rencontre. Un homme d'honneur qui découvre le vrai sens de sa vie. Lisons-le ensemble. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut. Il vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Et Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête ! Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là !» Le gardien demanda des torches. Il se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, il en sera de même pour toi et pour tous les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Et alors même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt, et lui et tous les siens, et il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas, se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Alléluia ! Amen ! Quelle belle histoire ! Cet homme est probablement un ancien soldat. La ville de Philippe, colonie romaine, était connue pour être un lieu où beaucoup de soldats venaient à la retraite, passer un moment. Ils avaient leur solde de la retraite. Et puis, ben, pour se faire un peu plus que la retraite, comme parfois les retraites sont petites, je ne sais pas si c'est pareil ici en Alsace, il a mis ses compétences au service de ce qu'il pouvait. Et ce qu'il savait faire, lui, c'était tenir une épée. Et en tant qu'ancien soldat, probablement, il était devenu gardien de prison. Ce gardien de prison, on parle aujourd'hui plutôt de surveillant dans notre pays, vous voyez que c'était une façon pour lui de mettre ses valeurs au service de la société. Il avait certainement un honneur, et on retrouve dans son comportement, c'est un homme qui avait des valeurs fortes. Il n'était pas croyant, pas du tout. Il n'avait pas du tout le chemin de Lydie. Il n'y avait pas de connexion avec Dieu particulière, semble-t-il. C'est un non-religieux, un homme de l'armée, un homme de principe, un homme de valeurs, un homme d'honneur qui cherche simplement la droiture. Il avait sa famille avec lui, il en prenait soin du mieux possible, il avait une vie bien ordonnée, bien réglée. Et en même temps, alors que tout semble bien aller pour lui, ce texte nous montre que dans une vie comme ça, où tout semble bien, on a travaillé, on a bâti notre maison, on a bâti notre famille, on s'est expatrié dans un endroit où on est bien. Il a son salaire, il a sa solde tous les mois. Tout va bien pour lui. Et pourtant, en un instant, sa vie bascule. Sa vie bascule en un instant. Alors nous, on ne comprend peut-être pas tout ce qui est en train de se mettre en place, mais vous imaginez que lui, qui semblait tout allait bien pour lui, tout d'un coup, il est prêt à se tuer. Il y a des situations qu'on n'arrive pas toujours à saisir, des souffrances qu'on n'arrive pas à détecter. Dans la vie de Jean, extérieurement, tout va bien. Intérieurement, il y a quelque chose qu'eux-mêmes n'avaient pas vu qui peut les faire basculer tout d'un coup. Pour lui, c'est son honneur qui est en jeu. À l'époque, il était responsable de ses prisonniers. Si un seul d'entre eux s'échappe, il est responsable, par sa vie, de leur vie. Et il sait que si jamais ces prisonniers se sont échappés, pour lui, ça signifie humiliation publique. Pour lui, ça signifie qu'il va être traîné devant la place centrale de la ville et que là, c'est lui qui va être mis à mort. Et parce que c'est un homme d'honneur, parce que c'est un homme de principe, plutôt que de laisser cette humiliation le toucher lui, sa réputation et sa famille, il est prêt à agir et à faire le plus grave des actes en se donnant la mort par honneur, plutôt que de subir cette humiliation pour les siens. C'est toute la limite de nos systèmes d'honneur à nous, êtres humains. On a des bons principes, on a des choses, mais quand notre honneur est sali, quand notre réputation est abîmée, alors qu'on a passé toute notre vie à la bâtir, on n'a plus rien. Et toute notre vie peut s'écrouler en un instant. Plus rien, plus d'avenir, plus d'espoir. Mais lui, ce qui change tout dans son existence ce jour-là, c'est qu'il va découvrir, dans l'attitude de Paul et de Silas, quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans toute sa vie. Lui, il était habitué à ce qu'on rende le mal pour le mal et le bien pour le bien. Il était habitué à ce que la justice s'exprime et que chacun reçoive selon son comportement. Mais là, il voit des gens qui ne sont pas pareils. Paul et Silas, c'est des gens qui n'ont rien fait de mal. Ils ont juste prêché le nom de Jésus, ils ont délivré une femme de cette puissance mauvaise qui était sur elle, une femme esclave, ils l'ont rendue libre, ils se retrouvent en prison. Et là, alors qu'on leur fait du mal, eux ils chantent. Et lui, il entend des gens chanter dans la prison. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de leaders de louanges habituellement dans cette prison-là. Les gens habituellement, ils gémissent, ils râlent, ils crient, ils s'énervent. Ils sont violents. Mais là, lui, il entend des chants de louanges dans cette prison sale, ténébreuse, où d'habitude, ce ne sont que des voleurs. Et là, lorsqu'il entend ces chants, et lorsque Paul et Silas lui disent « Tout le monde est ici », il ne comprend pas leur attitude. Mais puisque vous n'avez rien fait, que ces portes sont ouvertes, vous auriez dû fuir tout de suite. Et Paul et Silas sont restés dans la prison alors qu'elle était ouverte, parce qu'ils savaient ce qu'allait se passer pour cet homme, certainement, et que ce jour-là, ils l'ont sauvé. Et là, ils ont découvert le vrai don de soi. Ne pas s'enfuir de cette prison et continuer de subir le châtiment qu'ils n'ont pas mérité pour pouvoir sauver cet homme et lui partager l'amour de Jésus. Waouh! Ça bouleverse sa vie. Et on comprend, si on se met du point de vue de Paul et de Silas, Dieu les a appelés dans cette prison pour faire connaître le nom de Jésus. Il y a des prisons dans lesquelles on pourrait se retrouver nous aussi. On ne comprend pas toujours nos limitations, nos empêchements, nos moments difficiles, nos épreuves. Mais il n'y a pas de que Dieu ne connaisse pas. Et Dieu m'appelle là où je suis, peut-être dans le moment où moi je pourrais être en position de râler, de me plaindre. En fait, Dieu m'appelle là, dans mon moment le plus difficile de mon existence, peut-être pour apprendre à le louer et pour apprendre aussi à le faire connaître à ceux qui sont à côté de moi. Là où les gens sont, ce n'est pas forcément une question de lieu, mais aussi parfois de culture, d'habitude. Voilà trois personnes incroyables. Je vous dis une petite anecdote qui connecte avec ce texte. Pour les Juifs, certains Juifs encore jusqu'à aujourd'hui, dans leur religion et dans leur prière, il y a une bénédiction, notamment chez les pharisiens, et il est probable que Paul la connaissait, ce n'est pas certain, mais probablement que Paul la connaissait. Certains Juifs prononcent cette prière tous les matins en disant « Béni sois-tu, toi qui ne m'as pas fait femme, qui ne m'as pas fait esclave et qui ne m'as pas fait non-juif. » Et ce qui est très étonnant, c'est qu'alors que certains font cette prière, dans ce texte-là, Paul, ancien pharisien extrémiste, eh bien, il apporte l'évangile à une femme, à une esclave et à un non-juif. Waouh ! La façon dont l'évangile est capable de briser les barrières. On retrouve cette pensée dans Galates 3:28 que vous connaissez peut-être. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Des cœurs qui ont été transformés, et du coup j'arrive à cette deuxième dimension ce matin, qui étant transformés dans le lieu où nous sommes, vont pouvoir rayonner par la générosité et par l'hospitalité. C'est la deuxième marque de ce texte. Quand vous relisez tout ce qui se passe ici, non seulement il y a des histoires de vie très étonnantes, mais il y a aussi la marque de la générosité et de l'hospitalité. Avez-vous remarqué que la façon dont l'évangile se répand à Philippe et dans les Actes des Apôtres, comme c'était le cas avec Jésus dans les évangiles, c'est toujours par des relations. Ce sont toujours des relations qui vont se manifester. Il y a la proclamation de l'évangile dans les places publiques et dans les discours, dans la prédication. Et il y a le partage de l'évangile dans nos relations. Si vous relisez l'évangile de Jean, chapitre 1er, vous voyez Jean-Baptiste, cousin de Jésus, qui va témoigner à certains de ses disciples. Il va les encourager à suivre Jésus. André, qui va en parler à son frère, Pierre. Ils vont rencontrer Philippe, de la même ville qu'André et Pierre. Ils vont voir Nathanaël parce que c'était un ami. Et tout le monde là, c'est que des connaissances. C'est que des poteaux, c'est des cousins, c'est des amis de la famille. C'est comme ça que l'évangile s'est répandu. C'est comme ça que le nom de Jésus s'est manifesté. Puis quand vous allez dans Jean 4, la femme samaritaine, comment est-ce que l'évangile est rentré dans cette ville de Samarie? Parce que cette femme, elle a été voir tous ses amis, tous ses voisins, même ceux qui ne l'aimaient pas trop. Elle leur a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et ces gens, comme ils la connaissaient, comme ils savaient d'où elle venait et qui elle était, ils disent, mais si elle a vécu ça, alors j'ai peut-être quelque chose moi aussi à recevoir. Jésus, dans l'évangile de Marc, qui va s'arrêter, et c'est les collègues qui vont se témoigner les uns aux autres. Il vient les rencontrer sur le lieu de travail, c'était des pêcheurs, sur le lac de Tibériade, et là, il parle à l'un, et puis il parle à l'autre, et c'est sur leur milieu professionnel, c'est avec des collègues que l'évangile va se répandre. C'est assez touchant de voir que l'évangile, depuis 2000 ans, se répand le plus facilement et le plus rapidement par des relations. Et dans Actes 16, c'est ce que nous voyons. Paul qui rencontre cette femme, puis qui sur son chemin rencontre cet esclave, qui se retrouve en prison et qui rencontre ce geôlier, et puis toutes ces familles qui sont profondément bénies par la puissance de l'évangile. Et lorsque l'évangile rentre dans un cœur, vous le voyez notamment chez Lydie et vous le voyez chez ce geôlier, un cœur transformé par l'évangile, c'est un cœur qui devient généreux. J'ai été touché par ça en lisant ce récit, en s'apercevant que de la même manière que Dieu a été tellement généreux à notre égard pour nous bénir en Jésus, pour nous aimer, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je ne sais pas si ça fait partie des attributs de Dieu que vous connaissez le plus. On parle de sa sainteté, de sa toute-puissance, de sa toute-suffisance. On parle de son éternité, mais une des qualités de Dieu, c'est sa générosité. Moi, je suis émerveillé par la générosité de Dieu. Tout ce que j'ai, ça me vient de lui. Et j'ai tellement au-delà de tout ce que je mérite véritablement. Dieu est généreux avec ceux qui le suivent. Et Dieu est généreux avec ceux qui ne l'aiment pas et qui ne veulent même pas de lui dans sa vie. Dieu donne le souffle de vie aux uns et aux autres. Jésus dira, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu fait grâce aux uns et aux autres. Sa générosité, elle est sans limite. Il donne au-delà de notre arrière-plan spirituel. Il donne au-delà des barrières sociales. Il donne au-delà des mérites des uns et des autres. On retrouve cette générosité comme dans l'histoire du fils prodigue où ce papa dont le fils a tout dilapidé. C'est pas ce que vous auriez fait, vous, c'était l'Iron Man, là, les hommes, là. Vous auriez fait quoi, les papas ou les grands-papas, avec un gars qui revient, il a pris tout l'héritage, la moitié de votre vie, et en 15 jours, il a tout vidé la caisse. Moi, je n'aurais pas réagi comme ce fils prodigue. Hein. J'aurais dit, mon fils, il y a des choses que tu vas apprendre, ça va être compliqué. Et il faut que tu passes par l'épreuve pour réaliser ce que ça coûte la vie. Mais ce papa-là, dans le ciel, est tellement meilleur que moi. Et il accueille son fils parce que Dieu est généreux. Il est généreux pour venir briser les barrières de nos vies et faire briller son amour en nous. Et cette générosité va même lui donner de l'hospitalité. Avez-vous remarqué combien Dieu est hospitalier ? Dieu est hospitalier. Il nous accueille, il nous reçoit dans sa présence, il nous accueille dans son temple. Il prépare pour nous un lieu extraordinaire. J'aime beaucoup Jean 14. Jésus qui nous enseigne en disant « Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça va être génial quand même, non? Ça va être mieux que Ibis, hein? Merci pour l'hôtel, on m'a mis à l'hôtel hier soir. C'est mieux que le voisin ou le copain d'Espagne qui nous prête sa villa pour l'été. C'est encore mieux que ça. Parce que Dieu est hospitalier. Et parce qu'il est hospitalier, j'arrive même pas à imaginer ce qu'on va pouvoir vivre quand on va découvrir ce qu'il est en train de préparer. Quand déjà je vois sa grâce dans notre vie aujourd'hui, mais qu'est-ce que ce sera quand on va voir une autre dimension de sa gloire? Ce sera plus que le spa, le fitness, la piscine est débordante. Il y aura plus que ça. Parce que Dieu est hospitalier. Alors, il invite chacun d'entre nous. Et Lydie et tous ces gens transformés par l'évangile dans ce texte vont manifester cette générosité. Convoy of Hope, c'est une organisation, une ONG américaine qui travaille au niveau international. Et j'aime beaucoup un de ces leaders qui nous disait il y a quelque temps de cela cette phrase. Pour eux, en tant qu'organisation qui aide dans toutes les situations difficiles, d'ailleurs ils sont en train d'aider en Espagne avec les inondations qui ont lieu à Valence. Il y a plus de 210 morts et des églises ont été touchées, des familles aussi. On lance un appel aux dons d'ailleurs dans cette dynamique-là. Vous allez recevoir des nouvelles par votre église pour pouvoir aider nos frères et sœurs espagnols. Ils disent une générosité radicale qui restaure un être humain à une place d'honneur. C'est beau, hein? Une générosité qui va être capable de restaurer les gens dans l'honneur de l'image de Dieu qu'ils sont, des êtres humains aimés par Dieu. La générosité brise les barrières sociales, économiques et spirituelles et l'hospitalité accueille les gens dans la présence de Dieu. Et en tant qu'Église, nous sommes invités à vivre ça. Lydie est devenue une femme généreuse. Elle a accueilli tout le monde dans sa maison, hospitalité, et elle a pourvu à tous les besoins de Paul avec les moyens que Dieu lui avait donnés. Cette générosité a marqué la création de Philippe. Philippe, c'était une église qui est connue pour sa générosité. Si vous relisez toute l'épître des Philippiens, vous verrez que l'un des axes centraux de toute cette épître, c'est la générosité. C'est dans l'épître aux Philippiens qu'il est dit que Dieu pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Et c'est dans cette même épître que Paul va dire « Tous ne m'ont pas soutenu, mais vous les Philippiens, vous ne m'avez jamais abandonné. Et j'ai bien reçu les dons que vous m'avez envoyés. » Philippe, c'était une église qui avait été créée et fondée sur la valeur de la générosité et de l'hospitalité. Parce que Lydie, elle va immédiatement ouvrir sa maison. Et ce geôlier va immédiatement ouvrir sa maison pour accueillir les personnes qui veulent voir briller l'évangile. L'hospitalité, c'est comme un don. En grec, c'est le terme philoxénia. Il y a l'idée d'aimer l'étranger, d'aimer celui qui est différent, d'être capable d'ouvrir notre cœur et nos maisons. L'hospitalité, nous permet de rencontrer les gens qui sont différents de nous. Et ces deux valeurs mettent en pratique l'amour pour le prochain. Je termine en soulignant une dernière caractéristique de ce texte. Rayonner là où les gens sont. Paul, Lydie, cette femme esclave, ce geôlier. Rayonner par la générosité et par l'hospitalité. Et ce texte nous dit aussi que nous pouvons rayonner dans nos maisons. Parce que c'est étonnant cette histoire de maison. Les deux, Philippe et Lydie, pardon, et le geôlier, si vous relisez le texte, vont ouvrir leur maison pour que l'évangile puisse rayonner. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre maison. Nos maisons ne sont pas toujours des lieux rayonnants. La maison, c'est même parfois le lieu où il y a les moments les plus difficiles de la vie. Quand on reçoit des personnes en tant que pasteur, en entretien, on s'aperçoit de cela. C'est parfois dans la maison, en tant qu'enfant, en tant qu'ado, que nous avons vécu des moments difficiles. Notre maison, que nous voudrions être un lieu d'accueil et bienveillant, est parfois le lieu d'histoires difficiles et douloureuses, de mauvais souvenirs, parfois même des lieux de violence, de souffrance, de traumatisme. Mais cette histoire nous montre que chacune de nos maisons, touchée par l'Évangile, est appelée à devenir un lieu de bénédiction. Un lieu de bénédiction. Je ne sais pas comment ça se passait dans la maison du geôlier ou dans la maison de Philippe, de Lydie, mais je sais que ce jour-là, lorsqu'ils ont accueilli la lumière de Jésus, toute leur maison a été bousculée. D'ailleurs, le geôlier, lui, on voit qu'il a fait ça en pleine nuit. À, je ne sais pas quelle heure il était, minuit il chantait, donc il était peut-être 1h du matin, ou 2h, je ne sais pas quelle heure il était, mais en plein milieu de la nuit, lui, il a allumé la lumière. C'est la lumière qui a pris place dans sa maison au lieu de la nuit. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée là où il y avait les ténèbres. Quand il est question de maison, on a chacun nos définitions, vous avez peut-être votre image mentale de la maison. Le terme maison qui est utilisé ici, c'est un terme qui à la fois peut désigner la famille au sens large, et le terme même plus précis qui est utilisé, c'est le terme oikos. Aujourd'hui, quand on parle de maison ou de famille, on pense à la famille nucléaire, ce qu'on appelle le papa, la maman, les enfants. Parfois, il y a éventuellement des grands-parents, mais c'est plus rare aujourd'hui. Dans la pensée de la maison de cette époque-là et de Lydie et de cet homme geôlier, la maison, c'était plus que ça. La maison, il y avait aussi peut-être les cousins, les cousines, il y avait les serviteurs, les servantes. C'était des espaces, des lieux de vie. Un oikos, la maison, comme on l'appelait, c'était un espace où il y avait du monde. Et l'oikos, ça pouvait même désigner dans le vocable même une unité de production agricole ou artisanale. Ça pouvait être même une entreprise quasiment. Peut-être que la maison de Lydie, c'était même le lieu où elle faisait son activité d'import-export. Et là, aujourd'hui, si on essaie de faire le parallèle, quand il est parlé de maison, cosse, 1, 2, 3, davantage notre réseau relationnel. Toutes les personnes avec qui nous sommes connectés au quotidien. Notre oikos, ce n'est pas juste mes enfants et moi avec ma femme, mais c'est mes voisins. C'est les personnes que je rencontre quand je vais faire le sport à la salle. C'est mon collègue de travail que je vais connecter demain matin, lundi, après ce week-end long. C'est peut-être les personnes qui passent à la maison, les amis des enfants et toutes ces personnes qui viennent régulièrement. C'est peut-être mes amis, toutes les personnes avec qui j'ai des intérêts communs, l'art, la musique, la poterie, la couture. Je ne sais pas. Et dans tous ces réseaux, dans toutes ces connexions que nous avons, nous pouvons avoir une influence neutre, passive, négative. Des gens peuvent nous connaître pour telle et telle raison. Ou alors, nous pouvons aussi prier que Dieu nous aide à faire que notre oikos, nos connexions relationnelles, notre maison au sens large puisse être connectée avec l'Évangile. Paul nous montre que lorsqu'il connecte avec Lydie, il y a une maison qui va connaître l'Évangile et toute une famille qui va être transformée. Ce geôlier, lorsqu'il se connecte, il ne reçoit pas juste pour lui, mais son premier réflexe est de dire, je vais connecter tous les gens qui sont autour de moi et je vais leur permettre de connaître eux aussi cette chose extraordinaire. L'évangile a commencé dans les maisons et on retrouve à Philippe ce double équilibre que vous cherchez à vivre vous aussi ici à Strasbourg. Les moments où l'Église, elle est rassemblée. Il est parlé d'un lieu de prière, d'un lieu dans lequel tous les croyants sont là comme ce dimanche matin et nous louons le Seigneur, nous faisons monter les chants de louanges, nous prions les uns pour les autres, nous écoutons la parole de Dieu. Ça, c'est l'Église rassemblée. Et nous bénissons, Seigneur, nous avons besoin de ces lieux-là et je me réjouis pour le magnifique projet que vous êtes en train de mettre en place pour que ce lieu soit encore plus hospitalier, plus accueillant, qu'il puisse multiplier les activités pour que le plus grand nombre puisse venir s'ajouter à l'Église quand vous êtes rassemblés et que ce lieu soit connu comme un lieu de bénédiction dans cette ville, dans ce voisinage. Que la mairie même puisse voir ici un lieu dans lequel, eh bien, quand les gens traversent, passent, il y a une bénédiction qu'ils reçoivent. Et puis il y a aussi ces lieux lorsque l'Église elle est dispersée. Demain, ce midi, dans nos maisons, avec la famille, avec les parents, les beaux-parents, au travail demain matin, où là nous avons besoin de cette double dimension pour que la même bénédiction de Dieu se manifeste et que nos maisons soient aussi des lieux de bénédiction. Que la maison de Lydie, la maison de Joliet soient des lieux de bénédiction. Peut-être quelqu'un me dira, c'est bien, vous parlez de Lydie et de Joliet, mais vous avez oublié de parler de la femme esclave. Oui, parce qu'elle, c'est la seule qui est dans l'histoire, elle n'a pas de maison. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'elle qui n'avait pas de maison, en rencontrant le Seigneur, elle découvre une famille et elle est accueillie dans la maison du Seigneur. Et qu'elle qui n'avait pas de maison, qui était privée de maison, elle va rencontrer la grâce d'avoir plein de maisons de Lydie, du geôlier, où elle peut aller manger et être heureuse avec ses semblables. Dieu veut bénir ta maison. Et dans cette société individualiste, consumériste, post-chrétienne, esclave de ses passions, où les relations sont de plus en plus abîmées, nous pouvons être un témoignage de la puissance de transformation de l'Évangile. J'aimerais juste vous rappeler ces deux phrases qui résument tout ce que je viens de vous partager. Dieu m'a conduit là où je suis, pour que je puisse le connaître. J'aimerais qu'à travers cette phrase, peut-être quelqu'un qui s'approche, qui découvre Jésus. Vous êtes peut-être là pour la première fois dans ce lieu où vous n'êtes pas encore engagé avec Jésus. Peut-être que vous vous retrouvez dans certaines de ces histoires. Vous avez peut-être une belle situation sociale comme Lydie et en même temps vous êtes en recherche de quelque chose, en recherche de Dieu. Dieu vous appelle là où vous êtes. Même si vous n'êtes pas originaire de Strasbourg, il n'y a presque aucun ici, très peu, qui habite là où ils sont nés. Peu importe d'où vous venez, le Seigneur vous rencontre ce matin. Peut-être que vous ressemblez à cette femme, oppressée par des puissances spirituelles, maltraitée, peut-être esclave de passions intérieures, du péché, des hommes. C'est un moment de délivrance ce matin. Et puis, peut-être que vous ressemblez à cet homme d'honneur. Tout va bien dans votre vie, vous n'avez pas besoin spécialement de Dieu. Mais en même temps, il peut y avoir des basculements où vous réalisez que c'est si fragile votre existence. Et que Dieu peut vous donner un sens, une fondation. Il peut devenir celui qui éblouit toute votre vie par sa merveille et par sa beauté. J'aimerais vous donner l'opportunité de dire Jésus, dans ce lieu ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. On va fermer nos yeux quelques instants. J'ai demandé à l'équipe de louange de pouvoir venir et j'aimerais prier, faire cette première prière. Je ferai une deuxième prière juste après. Je vais prier, on va prendre un chant de proclamation et après je voudrais juste vous amener à prier tous ensemble en tant qu'Église. Seigneur Jésus, je vous ai prié pour toutes les Lydies, pour tous les esclaves et pour tous les geôliers qui sont dans ce lieu. S'ils sont venus ce matin, Seigneur, c'est pour te rencontrer. Seigneur, tu les appelles par ton amour. Tu les appelles, Seigneur, depuis ton ciel. Tu les appelles depuis la croix où tu as donné ta vie pour eux, afin que leur vie soit libérée de leur esclavage. Tu as dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour proclamer aux captifs la liberté, aux aveugles le recouvrement de la vue. Seigneur, tu es venu pour vivre cette transformation. Je te prie que tous ceux qui ont besoin de Jésus ce matin, Seigneur, puissent te recevoir maintenant et que ta vie vienne dans leur existence, que tu viennes radicalement les transformer comme tu l'as fait pour Lydie, pour ce geôlier, au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais associer à cette prière le chant. Ce chant qu'on a pris tout à l'heure qui dit « Je veux proclamer Jésus dans chaque situation ». On va se lever tous ensemble à notre place si vous voulez bien. Et pendant ce chant, priez que les chaînes puissent être brisées. Les chaînes de l'esclavage, les chaînes de la passion, les chaînes des pensées noires, les chaînes de mon déshonneur, de mon humiliation. Et qu'on puisse proclamer Jésus déjà dans nos propres vies. Alors que tu prends ce chant, chante-le pour ta vie. Chante-le pour ton existence. Chante-le devant tous les défis que tu peux traverser, devant ton anxiété, ta dépression, comme ce chant le dit, devant tous les défis de toi. Et on le rechantera une deuxième fois tout à l'heure pour le chanter ensemble comme un chant de bénédiction pour la ville et pour tous ceux qui nous entourent. Mais chantons-le déjà en considérant ce que le Saint-Esprit a fait ou est en train de faire maintenant dans notre vie. Alléluia, Jésus.
Oui, je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Oh, oh. Oui, je veux proclamer jusqu'à ce que les chaînes soient brisées.
Alléluia.
Car je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus.
Oh,
ton nom est puissant.
Chante-le pour ta vie ce matin. Ton nom est puissant dans ma vie. Alléluia.
Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout.
Je veux proclamer le nom de Jésus dans ma vie, dans ma famille. Alléluia.
Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Et on chante ton nom est puissant, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vivant. Tu brises les perce la nuit, consume encore ton nom. Oh, ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume.
Si vous avez besoin de prière, dans quelques instants, vous aurez un lieu. Mathieu vous expliquera que vous pouvez venir et il y a des équipes qui seront là pour prier pour vous par rapport peut-être à des besoins spécifiques dans votre vie. Mais avant de nous quitter, j'aimerais aussi qu'on se saisisse de ce message et de ce chant pour prier afin que notre vie et notre maison, notre famille, notre église deviennent une bénédiction dans cette génération. De la manière que Paul, partout où il allait, et toutes les personnes qu'il rencontrait, il y avait une transformation radicale qui se passait. C'est comme ça que ça s'est passé en Europe il y a 2000 ans. Et c'est comme ça que ça peut se passer encore aujourd'hui à Strasbourg. Il y a des gens qui viennent ici pour toutes sortes de raisons. Il y a dans cette ville des gens qui ressemblent à Lydie, qui sont venus pour des affaires, pour la politique, pour l'économie. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont été traînés là et qu'ils n'ont pas de papier, qui sont esclaves de plein de choses et qui se retrouvent dans la rue, dans toutes sortes de situations difficiles. Il y a des gens qui ont une vie droite, des bons Alsaciens qui sont là et tout se passe bien pour eux. Mais tous ces gens-là, c'est vous qui allez les rencontrer. Et si Dieu vous a appelé dans ce lieu, si Dieu vous a appelé dans cette ville alors que vous êtes né ailleurs, c'est parce qu'ici il y a quelque chose à faire avec vous. S'il vous a appelé dans cette église, c'est parce qu'ici il y a quelque chose à faire avec vous. Alléluia. Et dans Philippiens, l'épître aux Philippiens, lorsque Paul leur écrit quelques années plus tard, il leur rappelle cet appel initial en leur disant, dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de la vie. Et cette parole résonne parce que c'est ce que Paul est venu faire en venant à Philippe. Et il leur dit, maintenant que je l'ai fait, c'est à vous de le faire. Et j'aimerais qu'en tant qu'église, par rapport à tous ces projets que vous vivez, on puisse terminer en chantant, je veux proclamer le nom de Jésus. Sans penser là, cette fois-ci, à nous, à nos familles, à nos maisons. Mais alors que nous y pensons, disant, Seigneur, fais de moi un Paul. Alléluia. Fais de moi une Lydie. Fais de moi un geôlier. Fais de moi cet esclave qui est capable de proclamer le nom de Jésus dans sa génération. Vous voulez bien qu'on le chante ensemble et qu'on proclame cela sur cette ville, sur votre quartier, sur vos amis. Pensez demain là où vous allez être, dans votre travail, à la maison, avec vos voisins. Et nous voulons proclamer le nom de Jésus pour qu'il y ait cette lumière qui brille. Vous êtes des flambeaux dans le monde. Prie, chantons-le ensemble de tout notre cœur. Alléluia.
Oui, je veux proclamer le nom de Jésus. Oui, sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence. En toi, Jésus, je veux proclamer. Oui, je veux proclamer le nom de Jésus. Jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus.
Et son église chante.
Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la vie.
Déclarer sur les monts Jésus dans les rues. On y va, déclarons.
Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus,
est-ce qu'il y a une église qui est prête à déclarer le nom de Jésus sur la ville? On y va ensemble.
Déclarons sur les monts, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout.
Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Dieu nous aide à vivre ce qui a été prêché ce matin dans les différents groupes de vie que nous représentons, des groupes de maison, repas fraternels, en passant par les groupes famille, en passant par toutes les relations qui sont les nôtres. Merci beaucoup, Yann. Est-ce qu'on peut, après avoir remercié Jésus, est-ce qu'on peut remercier aussi Yann pour sa visite ce matin, pour ce temps d'encouragement, de ressourcement? Si ce matin, d'une manière ou d'une autre, de l'accueil à la louange, en passant par le message qui a été partagé, le temps de prière, vous êtes touché, impacté, nous sommes tellement heureux de vous offrir un espace d'écoute et de prière qui se trouve sur ma gauche, sur votre droite. Ça aura lieu sur l'allée qui est là, juste là. Donc des choses vont être mises en place. Donc on vous demandera, à vous qui êtes dans cette allée, de pouvoir libérer cet espace de manière à ce que les personnes qui ont besoin d'écoute et de prière sur des sujets qui sont tellement importants pour eux puissent être accueillis. Et qu'on puisse prier aussi pour eux. Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite vraiment une semaine bénie. Église dispersée, soyez une bénédiction. Et on se retrouve très bientôt, à commencer par le jeûne et la prière demain soir. Soyez bénis.